île où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'en cueillant rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite y porter une marmite qui était à renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et c'est toujours, pas tous les jours dimanche, l'exposition que vous pouvez voir en ce moment et jusqu'au mois d'avril. Vous avez encore le temps, mais ça vaut le coup peut-être d'y aller une fois, d'y retourner une deuxième, et puis on vous proposera, vous le verrez, on vous en parlera tout à l'heure, différentes journées de discussion, débats, films, etc., comme il y en a déjà eu au moment de l'ouverture de l'exposition, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, je crois qu'il serait important effectivement d'essayer d'évaluer un petit peu qu'est-ce qu'une exposition comme celle-là signifie dans le monde d'aujourd'hui ? Parce que la classe ouvrière, est-ce qu'il y a toujours une classe ouvrière aujourd'hui ? Et quand les gens viennent visiter cette expo, est-ce qu'ils ont l'impression d'assister à justement une trace historique de quelque chose qui n'existe plus ? Ou bien est-ce qu'ils font le lien avec la situation d'aujourd'hui en disant « Ah ben, les années 30, est-ce qu'on va revivre ça aujourd'hui ?» Enfin, quelles sont un peu les réactions des publics ? Le jour de l'ouverture, il y avait beaucoup de gens, et peut-être déjà là, vous avez certains échos. Et puis, tout au long de l'exposition, comment vous faites pour savoir un petit peu comment les gens réagissent ?
C'est une bonne question. On est tout le temps dans cette maison, donc on croise pas mal de gens qui visitent. On visite aussi l'exposition avec beaucoup de groupes, donc il y a aussi des réactions, on a aussi un écho de cette façon-là. Et puis on connaît plein de gens qui ont visité l'exposition, qui nous donnent un retour de leur visite. Mais en fait, au début, quand nous on a commencé, quand on est parti sur ce thème, on avait l'impression d'être anachronique. On était, on se disait ouvriers, il n'y a plus d'ouvriers, on va mettre les ouvriers au musée, quelle drôle de choses on fait. En plus, ouvriers, ça fait quand même penser à la gauche, c'était la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qu'on fait encore? En plus, on met aussi la gauche au musée. Au départ, je ne savais pas tellement quel allait être le lien avec aujourd'hui. J'étais un peu gênée par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'une exposition qui n'a pas un ancrage dans l'aujourd'hui, pour une exposition d'ethnographie régionale, c'est vraiment dommage. Et puis, plus le temps passait, plus on se trouvait avec des correspondances avec l'actualité qui étaient vraiment étonnantes. C'est vrai que quand on sortait de chez quelqu'un qui avait évoqué la difficulté des années 30 et puis qui avait cette affichette d'un des quotidiens genevois qui disait 10 000 chômeurs à Genève, qui est exactement le chiffre qu'on venait d'entendre. Alors, on va pas dire les années 30 et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais tout à coup, des mots comme ça, qui revenaient tout le temps dans la conversation des vieux qu'on rencontrait, étaient des mots qui étaient totalement actuels. Le mot crise, le mot chômage, le mot difficulté, le mot importance du travail, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de travail dans une société qui valorise tellement le travail, etc. Donc, à ce niveau-là, je crois que l'exposition, plus elle avançait, plus elle prenait de l'actualité, et beaucoup de gens ressentent ça dans l'exposition, c'est-à-dire qu'ils font automatiquement des parallèles avec aujourd'hui. Mais à partir de choses toutes simples, hein, nous on fait pas de théorie ou de pédagogie dans cette expo. Mais par exemple, quand ils voient les astuces par rapport à la récupération, ils se disent la récupération c'est un sujet totalement actuel. Donc de voir que les vieux déjà avaient par contrainte su tellement bien faire dans ce domaine de la récupération, c'est vrai que ça touche beaucoup les jeunes qui, eux, s'intéressent à tout ce qui peut tourner autour de la récupération. Il y a des tas de points comme ça. Le vélo, si nous on a privilégié le vélo, c'était parce que c'était un objet tout bête, tout simple, qui permettait de couvrir cette période 1890-1950. De l'avènement du vélo, il est à peine là en 1890. Mais il existe déjà dans sa forme actuelle. 1950, le vélo, c'est fini. Il est vraiment refoulé. C'est la bagnole, il n'y a plus de place pour le vélo. Et quand on prépare l'exposition, nous, on a tellement entendu parler de vélo, qu'on est complètement fasciné par le vélo et par les vieux vélos, eh bien, c'est le moment où il y a le forum du vélo à Unideux. Donc, il y a toutes. Et c'est vrai qu'accueillir les gens avec la partie dans le parc, cette petite partie sur le vélo, c'est toucher tous les jeunes qui se posent la question. Enfin, c'est complètement actuel comme débat. Donc, alors, le problème, c'est que les ouvriers. Je crois que l'exposition, elle montre que Genève était une ville ouvrière. Et ça, on le sait plus, et ça nous fait regarder la ville très autrement, de penser que c'était une ville ouvrière, c'était une ville d'industrie. Alors, bien sûr que quand on habite dans une ville du tertiaire, je crois que de se rappeler de ça et d'avoir quelques points de repère pour repérer l'ouvrier dans l'architecture, dans l'urbanisme et tout ça, c'est intéressant. Alors, toute la question de aujourd'hui, l'ouvrier a disparu, vous le mettez au musée. Nous, ce qu'on a mis au musée, et puis dans un sens vraiment, j'espère, dynamique, on ne dit pas tellement comment c'était, mais en disant comment c'était, on dit aux gens « et vous ». Et le « et vous », ça fonctionne avec les vieux, mais ça fonctionne tout aussi bien avec les jeunes.
Alors moi, disons, il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappée. C'est qu'effectivement, on voit au travers de ces objets et aussi de votre mise en scène une véritable classe ouvrière, dans le sens que c'est une culture ouvrière, des traditions, des modes de vie, effectivement, qui sont d'une classe. Ce qui, aujourd'hui, on voit moins. On le voit tellement peu qu'on peut se dire que ça n'a peut-être jamais existé. Alors là, c'est la preuve, effectivement, cette culture a existé et peut-être qu'en cherchant bien, on verrait qu'elle existe encore aujourd'hui sous une forme transformée, mais qu'elle existe encore et qu'il y a peut-être un enjeu à la conserver, à la garder, à retrouver sa vigueur. L'autre chose qui m'a beaucoup frappée, alors là on revient aux objets, c'est le prix des objets. Alors là je pense que beaucoup de gens ont dû vous en parler, vous avez parlé du vélo. C'est incroyable ce qu'un vélo coûtait à l'époque par rapport à ce que ça gagne. Vous avez calculé?
C'est vrai, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment quand on demande mais pourquoi ce vélo, vous nous le donnez, vous l'avez gardé toutes ces années, qui sont souvent d'ailleurs en très bon état, ou la même chose pour les machines à coudre. Ces objets coûtaient très cher au début du siècle, un vélo c'était 350 francs pour un salaire de 2200 francs par année, une machine à coudre un peu plus tard c'était dans les mêmes sommes, donc ça représentait 3 mois, 4 mois de salaire. Il fallait économiser, il fallait emprunter. La machine à coudre était très souvent indispensable, c'était comme le dialda, c'était de pouvoir travailler à domicile, en disant je travaille à la maison, je peux aussi m'occuper de mon domicile. Ça faisait des conditions d'ailleurs de travail très très dures. Peut-être justement ces machines à coudre, c'est un objet assez intéressant parce que c'est un objet qui est difficile à traiter. Elles sont heureusement, elles sont belles, ces vieilles singères ou pfaff noires avec des belles lettres d'oreilles. Et on aurait peut-être tendance, en les regardant ou quand le public les regarde, on en retrouve encore d'ailleurs dans des salons comme objets décoratifs, de surtout pas oublier ce qu'elles ont représenté comme travail difficile, comme économie pour toutes les personnes qui les ont utilisées. Et ça, on s'aperçoit dans le fond que c'était peut-être le moment de le faire. Et ce monde ouvrier qui a disparu peut-être, ces gens sont encore là pour en parler, sont encore vivants. Et il faut se dépêcher de... J'en profite pour dire tous les enfants qui ont des grands-parents, qui ont vécu à cette époque, qui se dépêchent de les faire parler, de leur poser des questions. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire et jusqu'à présent, on ne s'est pas trop occupé de ces gens-là. Et on parlait de culture ouvrière, c'est vrai que pour une jeune génération, on pense Balmusette et comme ça, c'était pas vraiment toujours le cas. Les ouvriers allaient au grand théâtre, ils faisaient des promenades botaniques avec des professeurs éminents comme Ménard ou Pitard. On aurait tendance à l'oublier, le théâtre prolétarien aussi, avec William Jacques, qui était très important.
En tout cas, moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est la mémoire des gens, justement. De quoi ils arrivent à se rappeler jusqu'à la forme, la marque de l'appareil de radio qu'ils avaient quand ils étaient petits. C'est incroyable. Moi, quand j'essaie de faire la même démarche, j'y arrive pas une seconde.
Mais c'est parce que t'es pas assez vieille.
Oui. Mais si aujourd'hui, j'en suis pas capable, ça
viendra. C'est-à-dire que toutes les personnes âgées nous disent « Mais c'est quand même bizarre, moi, non, j'arrive pas du tout. Qu'est-ce que j'ai mangé hier ? Est-ce que je suis allée à la boulangerie ou pas ?» Enfin, tous les événements très proches et très quotidiens. Je crois que plus le temps passe, ça, c'est la mémoire qui disparaît. Par contre, la mémoire, tout ce qui est lié à l'enfance, ça reste ancré à tout jamais. Enfin, les quelques souvenirs qu'ils ont, et c'est très, très précis. Mais évidemment, c'est d'une précision, toute humaine. Ça veut dire que, bien sûr, on se rappelle les choses très, très précisément et des fois complètement faux. Ça fait partie, et ça on le rencontre chaque fois qu'on fait un travail avec des personnes âgées sur la mémoire. Ils se rappellent de tout, et puis souvent ils sont complètement à côté. Alors les dates, c'est extraordinaire, les dates, il faut toutes les vérifier, parce que surtout les dates des événements, on oublie ces choses. Mais on s'en souvient très très précisément, on vous dit jusqu'au jour, hein, c'est le 24 décembre, c'est sûr que c'était ça, c'est 1928, et puis on se rend compte que c'était 1914. Et c'est seulement quand on les replace dans le contexte de leur âge qu'on retrouve la vraie date.
Ça serait très, très souvent, en tout cas, ce qui m'a assez impressionné, alors peut-être que ces dates ne sont pas toujours justes, c'est vrai, c'est le parcours professionnel de ces ouvriers. Et comme vous disiez avant, moi j'aurais de la peine, les 15 ans derrière, quel était, quand c'est que j'ai pu changer, ou à quelle année exactement j'aurais pu changer de travail. Et eux, ils vous disent, j'étais à telle et telle entreprise, j'ai arrêté au mois de novembre parce qu'on était mis au chômage, j'ai retrouvé 2 mois plus tard un autre travail. Ils sont capables comme ça, sur des années, de raconter tout leur parcours professionnel, de s'en souvenir peut-être plus que nous actuellement.
Oui, parce que c'est moins les dates, c'est vraiment les détails des événements, quoi. Mmh. La façon dont on se lavait tous les dimanches dans le baquet, c'est des choses. Mais c'est étonnant à quel point chaque événement est resté gravé dans la mémoire des gens.
Oui, c'est un peu souvent quand moi aussi j'étais impressionnée, mais en même temps je trouvais que les gens, ils ont une façon de raconter qui, c'est une façon de redonner une dignité à leur biographie, à leur vie. C'est une façon de se rappeler tous les détails. Et moi, je voulais rajouter aussi dans ce bilan par rapport à quand on dit, bon, vous faites une exposition sur la vie ouvrière, sur les ouvriers au moment même où la classe ouvrière est en train de se liquéfier. Elle existe plus de moins en moins, simplement matériellement, il y a de moins en moins d'ouvriers. Hein, tout simplement des ouvriers dans le sens de personnes qui produisent des biens matériels, qui en font un travail manuel. Et mais là-dessus, je trouve que si cette expo, elle peut servir, et puis là, moi, je parle en tant que, je sais pas, sociologue, ou je sais pas, quelqu'un qui a un intérêt, qui a un goût pour que on fasse des enquêtes, pour qu'on en sache un peu plus et qu'on sorte des idées reçues et des stéréotypes, et pour qu'à Genève on arrive à avoir une fois une enquête ou une recherche ou une réflexion sur où on en est avec le travail ouvrier à Genève, et qui sont les ouvriers, comment vivent-ils, que pensent-ils, quelles pratiques, quelles normes de vie ont-ils. Et ça, ce serait le complément rêvé pour l'exposition que nous avons fait, parce que nous avons réussi à trouver quelques traces de cette culture ouvrière genevoise, des petites traces, parce que la mémoire que nous avons recueillie, elle n'est pas énorme, mais on pourrait aussi la compléter. Mais par rapport à l'actualité, on sait bien peu. C'est-à-dire, nous savons qu'à Genève, il y a l'emploi ouvrier, il est de moins en moins important. Qu'à l'époque que nous avons étudiée, il était très très important. C'était vraiment le secteur le plus important, le secteur de l'emploi le plus important. Donc, qu'à Genève, les ouvriers, c'était ceux qui produisaient, étaient au cœur du système productif, de la richesse produite. C'était vraiment eux qui produisaient la richesse de Genève. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas les organisations internationales, il n'y avait pas le tertiaire, il n'y avait pas l'électronique, ou je ne sais pas, il y avait vraiment le travail manuel des ouvriers, l'industrie, il y avait une industrie importante. Et qu'au même moment, ces ouvriers étaient exclus, ils étaient vraiment marginaux, ils étaient des marginaux sociaux. Et c'est ça qu'on a retrouvé aussi avec cette expo, c'est-à-dire cette centralité, cette importance de ce travail, cette richesse humaine, et puis l'exclusion de ces gens. Et à tout moment revient cette phrase, on n'était pas respecté, on n'était pas considéré comme des personnes, vous vous rendez pas compte, le mépris, effectivement. Et petit à petit, on a réussi à retracer aussi un peu l'histoire de ce mépris. Et dans ces récits, dans ces témoignages, on retrouve ce besoin ça saute aux yeux, que leur vie avait une dignité incroyable, avait un sens, avait une valeur incroyable, et que la société ne l'a jamais reconnue. C'est quelque chose qui a été reconnu petit à petit après la guerre, et puis encore, c'est-à-dire c'est une reconnaissance très matériel, très...
Mais dans ce sens-là, Alda, et à tout le monde, peut-être en guise de conclusion, est-ce que les gens que vous avez rencontrés, soit quand ils vous donnaient des objets, soit quand vous avez été les interroger, vous ont reconnu l'importance que vous leur donniez la parole ? C'est-à-dire en disant, ben, enfin, on nous donne la parole, enfin, on laisse s'exprimer cette partie de la population que sont les ouvriers et les ouvrières. Non.
Non, mais c'est difficile à dire, parce que
Moi, je crois que le fait que les gens aient répondu, tous les gens qui ont répondu parce qu'ils étaient vraiment... Au fond, ils encourageaient notre recherche. Moi, je dirais que c'est ça. Les gens répondant, ils disaient Genève, jusque dans les années 50, vie quotidienne, vous avez raison de faire quelque chose. Et puis moi, je contribue en vous donnant un bidon à lait. C'est un peu ça, c'est pour ça que ce choix des objets, qu'est-ce qu'ils nous donnent, ils décident de participer à l'opération. Donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens, et les gens qui viennent visiter, ils sont vraiment contents qu'on ait abordé ce sujet de la vie quotidienne autrefois à Genève, d'une façon qui puisse les toucher tous. La reconnaissance, oui et non, c'est-à-dire que les gens, des fois, ils ont de la peine à penser que c'est vraiment important... ce qu'ils nous racontent, parce que c'est des choses très, pour eux, très, très banales. Mais si on s'approche du thème de l'exposition, de l'émission, il y a une chose que moi, j'aimerais pas oublier de dire, c'est que, au fond, cette exposition, elle tient, elle fonctionne bien, elle fonctionne au-delà de toutes nos, de tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on a, dont on avait espéré. Grâce à des objets de rien, grâce à des témoignages de rien, grâce à des gens de rien, puis que tout ce rien, ça fait vraiment beaucoup, et ça interroge et ça interpelle les gens. Et parce que tout ce rien, tout ça a été mis en scène d'une façon géniale. Je crois que si on était parti des mêmes objets, des mêmes témoignages, des mêmes photos, sans réussir la mise en espace, eh bien, je crois qu'on ne parlerait pas comme ça aujourd'hui. Parce que nous, cette exposition, elle a un vécu. On raconte un peu comment ça s'est passé. Mais en fait, elle a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué parce qu'elle est, parce que les gens l'ont prise pour eux, réagissent, en font cela sont appropriés. Et tout ça a été rendu possible parce que les objets, les photos, les témoignages, ils sont présentés d'une façon... très proche des gens. D'une part, c'est pas le marché aux puces, c'est pas le n'importe quoi, puis à l'opposé, c'est jamais sacralisé. C'est brut, c'est tout simple, c'est tout près des gens, et les gens ont l'impression qu'ils retrouvent un budget de ménage, au fond, comme ils pourraient être ouverts sur leur table, chez eux, dans leur cuisine. Et puis ça, c'est grâce au travail de Roger Leponte, parce que je crois qu'autrement, on aurait eu de la peine à rendre la proximité entre le sujet et le visiteur. Et c'est tout son travail qui fait que ce sujet-là, il n'est pas exotique, même si le visiteur, ce n'est pas un ouvrier, même si le visiteur, ce n'est pas un vieil ouvrier.
Oui, absolument. Je pense que tous ceux qui ont visité cette exposition se sont rendus compte que c'est ce travail-là qui donne beaucoup de sens à notre démarche, c'est ce travail de mise en forme, les matériaux utilisés, aussi la façon d'utiliser que trois espaces, donc trois gros espaces, donc ça donne une unité au tout.
Hein. De créer des atmosphères, donc reconstituer. Ouais.
Et puis ça nous suggère que le monde ouvrier était quelque chose de homogène, c'était une chose, la vie ouvrière, elle était, on n'a pas utilisé toutes les petites salles, on a utilisé trois grands espaces.
Alors moi je crois que c'est le moment de conclure, je trouve très important cette initiative parce que je trouve que maintenant le discours sur le monde du travail est d'une pauvreté totale et on n'en parle tellement pas, le monde du travail est tellement pas partie prenante de ce qu'on voit au cinéma, au théâtre, dans les expositions et tout, que finalement on appauvrit totalement aussi tout ce qu'on peut penser et dire sur le monde du travail. Je crois que des expositions comme ça, elles participent aussi à enrichir un discours, donc une idée peut-être de transformation, d'évolution du monde du travail, parce qu'il faut parler du travail, on n'en parle plus. Et à ce propos, j'aimerais signaler qu'il y a un très beau film qui passe au cinéma qui s'appelle Rien du tout, qui parle d'un grand magasin. C'est une grande première que finalement un lieu de travail soit le sujet d'un film. Et je trouve aussi que cette exposition, de dire le monde du travail, le travail ouvrier est un sujet d'exposition, je trouve que ça enrichit beaucoup le monde du travail, dans la mesure où ça peut le permettre de... On peut en discuter, on peut en parler, donc on peut le faire évoluer. À ce propos, il y a toute une série de documents qui entourent et qui entourent toujours cette exposition. Il y a entre autres un très très bel comment est-ce qu'on peut dire
catalogue.
Un catalogue, oui. Donc il y a pour titre « C'était pas tous les jours dimanche » et qui a été, disons, pour le graphisme, la publication réalisée par, conçue par Anne Grossenbacher avec la participation de nos trois invités plus beaucoup d'autres et que vous vous retrouvez les photos, etc. Plein de choses fantastiques, des textes. Ça vaut vraiment la peine de l'embarquer avec soi sous le bras quand on sort de l'exposition pour se garder l'exposition dans la tête.
Il y a aussi une revue que le Collège du Travail a publiée. C'est un premier numéro, je crois, oui, le numéro 1 d'une revue qui s'appelle Confrontation et qui retrace justement cette période 1890-1950, mais cette fois-ci du côté de l'histoire, puisque c'est justement donner des jalons pour une histoire du mouvement ouvrier à Genève. Alors, en le lisant, en l'utilisant au cours de cette exposition, ça peut compléter, ça peut donner un fil conducteur aussi à cette exposition. Par ailleurs, vous avez ouvert l'exposition avec une série de conférences aussi tournant autour de ce thème du travail et une série d'animations. Et puis, vous allez continuer sur cette voie.
Oui, c'est toujours un moment assez délicat que le moment de la fermeture d'une exposition parce que d'une part, on est déjà totalement tourné vers la suivante. Donc, on a pris quelques distances. Et puis, en même temps, c'est toujours un petit deuil que de fermer une exposition. Donc, là, on avait la possibilité de pouvoir refaire avec le Collège du Travail, enfin de se dire au revoir dignement jusqu'à la prochaine exposition. Le Collège du Travail était d'accord de présenter, enfin de monter un colloque à Conches qui se tiendra le 24 et le 25 avril prochain. Donc on prolonge l'exposition d'un mois, vu son succès. Et le colloque concernera la lessive. Le thème général, c'est « La lessive serait-elle encore une histoire de femme ?» Et Alda a les clés de tout le programme qui va se dérouler à Conches les 24 et 25 avril.
C'est sur le thème de la lessive. Et parce qu'on voulait choisir un thème qui concerne plus particulièrement les femmes, vu que c'était un thème plus général qui ouvrait, et qui ouvrait l'expo. Alors, ce sera deux journées sur ce thème, une avec des invités, des conférenciers. Il y aura Jean-Claude Kaufmann, qui est le spécialiste du thème de la lessive, du point de vue du rapport des sexes, du point de vue du rapport homme-femme actuellement, qui a écrit un livre récemment qui est très intéressant, très provoquant. Sur l'analyse du couple, il analyse le couple, donc c'est un sociologue de la famille qui analyse le couple à travers la répartition, la façon dont l'homme et la femme s'occupent du linge, assument la lessive, etc. Donc il viendra nous parler de ses dernières découvertes à ce sujet. Et puis une ethnologue, Sylvette Deneffle aussi, qui a fait une enquête ethnographique sur la lessive. Donc c'est une espèce de photographie de la lessive actuellement, qui fait la lessive, comment, avec quels produits. Et que ça décortique un petit peu la question. Et je crois que c'est très intéressant ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a découvert. Il y aura probablement Geneviève Heller, l'historienne du propre salle suisse. Et il y aura une démonstration en plein air dans le jardin du musée. Une démonstration de comment on faisait la lessive autrefois aux cendres, avec une pédagogie de tout ça, avec un pique-nique en plein air, en espérant
plus qu'il fasse
films.
Bon.
Et il y aura des films ethnographiques sur la lessive.
Parce qu'il faut le rappeler, donc l'exposition commence déjà dans le parc du musée. Et on vous l'a dit tout à l'heure, il y a les vélos, il y a les jardins ouvriers et il y a aussi la chambre à lessive. Donc comment, prenez le temps de visiter toute cette partie qui est dans le jardin du musée déjà. Oui.
Et puis la lessive aussi, parce que c'est une des tâches, une des activités parmi les nombreuses activités que nous avons évoquées dans cette exposition. C'est une des activités qui a le plus changé. Et on l'a assez mis en avant dans l'exposition, c'est l'évolution de la lessive, la machine à laver, l'introduction de la machine à laver dans la vie des femmes. C'est une des choses qui a le plus changé la vie des femmes ces dernières années.
D'ailleurs, je me souviens, juste pour finir, d'un témoignage d'un paysan vaudois que j'ai rencontré l'année passée qui disait le plus beau cadeau dans la ferme, c'était quoi ? Puis nous, on se dit, oh mon Dieu, ça va être la venue d'un enfant. Ou je ne sais pas, c'était un monsieur qui nous racontait ça. Il dit, non, c'est la machine à laver le linge dans notre maison. Donc même, je crois que dans tous les milieux, ça a été effectivement pour la femme un changement fondamental. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Christine Détrat, Christian Delecra et Alda Djergi, pour vos nombreuses anecdotes, votre analyse et tout le récit autour de votre expo. Parce que je crois que quand on visite, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les préparations qu'il y a eu jusque-là. Et sûrement, ça rend la chose encore plus passionnante de pouvoir aller au travers d'expositions en sachant toutes ces choses-là. Alors, merci beaucoup d'être venu nous les raconter. Puis, on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que donc l'expo dure jusqu'à fin avril. Mais il faut encore amener les gens, les encourager. Ça vaut la peine, je suis sûre, d'y retourner plusieurs fois parce qu'on ne vous l'a pas dit. Mais encore, il y a d'autres documents à lire dans une salle. Il y a des films qui ont été réalisés par des élèves de l'ESSAV. Donc beaucoup d'autres choses dont, hélas, on n'a pas pu parler et qui vaut la peine, sur lesquelles il faut la peine de s'attarder lorsqu'on visite l'exposition. Voilà, Remue Ménage, c'est terminé aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve avec nos amis de la librairie des femmes l'inédite. Bonne semaine.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant.